Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à la justice pénale internationale en partenariat avec la revue internationale et stratégique. 2020 verra l'élection du troisième procureur de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États parties pour succéder à la magistrate gambienne Fatou Bensouda. Madame Bensouda avait été élue pour adoucir les critiques africaines à l'encontre de la CPI, là où son prédécesseur Luis Moreno Campo, qui fut aussi le premier procureur de l'institution basée à La Haye, aux Pays-Bas, avait lui été choisi dans l'objectif d'amadouer les États-Unis. En 2019, la Cour pénale internationale s'est distinguée par deux décisions qui ont soulevé beaucoup de critiques, alimentant le débat sur son efficacité et l'effectivité même de son travail. Ce fut d'abord l'acquittement de Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, et de l'ancien ministre Charles Blégoudé, de la charge de crimes contre l'humanité qui aurait été perpétrée dans le pays entre 2010 et 2011. Ce fut ensuite la décision des juges de la Cour de ne pas autoriser l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés en Afghanistan. Il s'agissait là d'enquêter sur les possibles exactions commises par des soldats américains. Dans les deux cas, les critiques se sont concentrées pour les unes sur la crédibilité de la Cour à juger des crimes les plus graves et à rendre justice aux victimes, pour les autres sur la légitimité même de la CPI. La Cour pénale internationale pèse-t-elle encore sur l'échiquier mondial? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Joël Hubrecht, responsable du programme Justice pénale internationale et justice transitionnelle à l'Institut des hautes études sur la justice, également membre du conseil de la rédaction de la revue Esprit. Bonjour.
Bonjour.
Revenons pour commencer sur les deux affaires mentionnées en introduction et qui ont donc marqué l'année 2019, le procès Gbagbo et l'Afghanistan. Joël Hubrecht, le procès Gbagbo a connu les évolutions que l'on sait avec la décision de la procureure, c'était le 16 septembre dernier, de contester la décision des juges de première instance de la Cour pénale internationale qui avait donc décidé l'acquittement pour cause d'extrême faiblesse du dossier. L'affaire judiciaire est donc relancée à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en octobre 2020. Qu'est-ce que l'on doit penser des motivations de la procureure? Est-ce qu'il s'agit de dénoncer les critiques dont son bureau fait l'objet dans ce dossier quant à la qualité de l'enquête? Est-ce qu'il s'agit d'une manœuvre politique, d'une entente entre le bureau de la procureure et les autorités ivoiriennes? Qu'est-ce que finalement révèle cette affaire Gbagbo, Joël Hubrecht?
Alors, l'affaire Gbagbo et Charles Blégoudé est effectivement symptomatique de l'état de crise et de mise en doute de la Cour aujourd'hui. D'ailleurs, dans la revue du RIS, un magistrat poissonnier consacre un article à cette affaire en considérant qu'elle est un condensé des limites de la Cour pénale internationale. Il faudrait peut-être voir aussi ce que révèlent d'autres affaires, mais disons qu'il n'a pas tort. Et effectivement, l'Afghanistan et l'acquittement de Laurent Gbagbo sont deux moments très forts de l'année 2019. Je remarque quand même que vous avez oublié de mentionner la condamnation de Bosco Ntaganda, chef du FPLC, qui a été condamné en 2019, en juillet 2019, à 30 ans pour 18 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des crimes commis en RDC. Et évidemment, mais c'est symptomatique d'une certaine manière que l'échec rencontré par le procureur dans sa poursuite de Laurent Gbagbo reste aujourd'hui à l'esprit. Et effectivement, elle est symptomatique, disons, des faiblesses en tout cas, ou des lacunes en termes d'enquête et en termes de stratégie de poursuite du procureur, alors que le travail du procureur en Côte d'Ivoire était tout de même mené dans des conditions un peu plus simples que dans d'autres pays, comme par exemple le Burundi, le Soudan, qui lui sont fermés. Là, on avait quand même avec le gouvernement Ouattara, même si les relations sont compliquées, on sait qu'il n'y a pas l'extradition de Simone Gbagbo qui était demandée par la Cour, mais au-delà de ces relations, disons, parfois tendues sur certains points, le gouvernement Ouattara était évidemment favorable à une condamnation de Laurent Gbagbo, et il y avait, pour les équipes du procureur, un accès à la documentation et au territoire de Côte d'Ivoire. Et malgré cela, le dossier a été jugé par les juges si faible qu'il n'y a pas eu besoin pour les accusés de présenter une défense. Ils ont été acquittés au terme de la phase de présentation des éléments à charge et avant même d'avoir à présenter une défense.
Alors comment expliquer cette faiblesse du dossier, Joël Hubrecht, là où finalement l'enquête pouvait se faire et être en tout cas pour le moins facilitée, étant donné les dispositions de M. Ouattara que vous évoquiez précédemment?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Il y a peut-être une erreur de stratégie du procureur. L'affaire a été lancée sous Ocampo et le choix a été fait de poursuivre l'ancien président Laurent Gbagbo pour des violences post-politiques, post-électorales, en lien avec la milice de Charles Bigoudet, donc des jeunes patriotes, alors qu'il aurait peut-être été possible de choisir, par exemple, des crimes de guerre, y compris commis avant l'année 2010-2011, pour viser Laurent Gbagbo en tant que chef de son armée, donc aller sur des crimes de guerre. Le dossier aurait pu être un autre dossier. Il y a eu un choix stratégique pour aller sur les violences post-électorales. Et de fait, on le voit aussi dans d'autres situations, la qualification de ces violences post-électorales en crimes contre l'humanité. Les juges de la Chambre préliminaire n'ont pas nié le fait qu'il y a eu des violences qui ont été commises à l'encontre, y compris donc de partisans de Ouattara. La preuve des violences a été faite. Mais la qualification en tant que crime contre l'humanité, c'est-à-dire d'attaque généralisée systématique contre une population civile, et le fait que le procureur n'est pas réussi à montrer que le positionnement de Laurent Gbagbo, qu'il y ait une entente claire entre Laurent Gbagbo et Charles Bégoudet pour effectivement provoquer des violences ciblées contre des partisans de M. Ouattara.
Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant, à quelques mois, je le disais en introduction, de l'élection en Côte d'Ivoire? Comment vous analysez la décision de la procureure de contester donc la décision des juges de première instance de la CPI? Alors, Joël Hubrecht.
C'est pas une surprise que le procureur cherche à faire appel. La Cour pénale internationale dispose d'un ensemble de moyens qui permet justement, ça c'est une force évidemment de cette Cour, de ne pas s'arrêter à la décision d'un juge. C'est des décisions collégiales, il y a des possibilités de recours. Bon, le procureur fait appel à cette possibilité de recours. Il le fait sur un point plutôt de procédure, c'est-à-dire que il cherche à contester le fait que les conditions même du jugement avant la phase de défense, rendue sans qu'il y ait les arguments écrits, qui étaient rendus immédiatement. Bien sûr, elle conteste aussi l'évaluation du niveau des preuves qui a été présenté, mais on voit qu'elle avance quand même un peu sur des œufs, disons, par rapport à son dossier. Mais en tout cas, elle se met en position d'appel et de ce fait-là, effectivement, ça complique le retour de M. Gbagbo dans la vie politique, puisqu'il est en liberté sous condition. Alors, c'est sa bataille en ce moment, devant une chambre. Il cherche à se voir rétablir ses droits politiques, c'est-à-dire à pouvoir s'exprimer sur la scène politique ivoirienne, à pouvoir éventuellement participer, voire se porter candidat à l'élection. Mais dans la mesure où l'appel est toujours en cours, évidemment, on peut penser que ce sera difficile pour lui. De la même manière, d'ailleurs, je note que Bemba aussi, qui a été acquitté dans d'autres conditions, à une autre phase de procédure, et cela révèle d'autres éléments, disons, de fragilité de la Cour. Bemba, qui a été acquitté, lui, est donc en liberté, mais il est handicapé pour son retour sur la scène politique congolaise par une affaire de subordination de témoins dans laquelle il a été condamné à la Cour. Et donc, il a cherché aussi à faire annuler cette condamnation. Il n'y est pas arrivé. Elle a été confirmée. La peine a été confirmée. Et lui aussi, son retour en politique n'est donc pas aussi simple que cela.
Alors, pour en revenir à l'autre affaire qui concerne l'Afrique, là aussi, dont vous m'avez clairement, et il y a juste titre, souligné que je ne l'avais pas mentionné en introduction, Joël Hubrecht, c'est donc Bosco Ntaganga, qui a été un ancien commandant rebelle de la République démocratique du Congo, condamné en novembre 2019, en novembre dernier, donc à la peine la plus lourde prononcée par la Cour. Un commentaire sur cette affaire?
Alors, sur l'affaire Ntaganga, alors effectivement, c'est une condamnation qui s'est faite sur un nombre important de chefs d'accusation, qui s'est faite sur un dossier qui est solide, où à la fois l'accusé a directement commis des meurtres, où il a été prouvé qu'il a commis directement des meurtres, qu'il n'est pas uniquement en position de commandant n'ayant pas tenu ses troupes. Mais évidemment, par rapport à des accusés tels que Laurent Gbagbo, tels que Jean-Pierre Bemba, tels que Kenyatta, tels que Béchir, on voit bien que la Cour pénale internationale aujourd'hui arrive à condamner des chefs de milice, des chefs de guerre tels que Thomas Lubanga, tels que Katanga, tels que Ntaganga. Et donc, elle n'est évidemment pas tout à fait au rendez-vous qu'on espérait. Et donc, il y a un réel problème. Je note que le bureau du procureur a intégrer d'une certaine manière cette limite, puisque dans son rapport de stratégique sur 2019-2021, elle défend l'utilité d'ouvrir des dossiers qui peuvent apparaître secondaires, mais qui sont peut-être plus faciles à prouver. Et elle le met en balance avec ce qui reste malgré tout la priorité du bureau du procureur, c'est-à-dire arriver à condamner les plus hauts responsables politique, donc y compris au niveau de chef d'État ou au niveau de chef de gouvernement, ce qu'elle n'arrive pas à faire aujourd'hui, mais elle le met en balance avec les moyens qui, selon elle, ne sont pas là aujourd'hui pour lui permettre de le faire.
Jolie Brecht, le roi est toujours la pièce la plus difficile à capturer.
Exactement. C'est une citation d'un auteur qui a fait un rapprochement entre le travail du procureur et le jeu d'échecs, avec cette image effectivement assez juste d'un procureur qui mène un jeu d'échecs en simultané contre différents adversaires. Et ce qui explique peut-être que parfois il se prend aussi les pieds dans ses stratégies, parce que les choses ne sont évidemment pas simples à mener. Et l'affaire afghane que vous aviez indiquée, et évidemment, là pour le rappeler, on a effectivement vraiment une sorte de jeu stratégique entre une cour, les États-Unis qui sont un État évidemment clé en matière de justice internationale, dans la naissance même de la justice internationale à Nuremberg, dans la conduite du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, mais qui a refusé de signer le statut de Rome et qui est aujourd'hui en opposition avec cette cour, mais qui se retrouve malgré tout, même si elle n'a pas signé et ratifié la cour, qui se trouve malgré tout rattrapé dans un dossier de manière indirecte sur le traitement et les tortures infligées contre des prisonniers afghans sur le territoire de l'Afghanistan ou sur des territoires d'État parti. Et donc, bien qu'il n'ait pas ratifié le statut de Rome, la Cour arrive à le tirer par la manche, et ce qui aurait sans doute été insupportable pour tout président américain, mais d'autant plus pour un néo-populiste comme Donald Trump.
Alors, on va poursuivre, bien sûr, sur l'Afghanistan. Et l'on signale que nous avons réussi à établir le contact avec Stéphanie Maupas, qui est à La Haye, aux Pays-Bas. Stéphanie, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes journaliste, correspondante pour Radio France Internationale et le quotidien Le Monde, donc à La Haye, et auteur de Le Joker des Puissants, le grand roman de la Cour pénale internationale paru aux éditions Don Quichotte. Nous avons parlé avec Joël Ubrecht jusqu'à présent de l'affaire Gbagbo concernant la Côte d'Ivoire, également la condamnation en novembre dernier de Bosco Natanga, l'ancien commandant rebelle de la République démocratique du Congo. Et nous avons abordions le dossier afghan, Stéphanie Maupas. Je rappelle que le 12 avril dernier, les juges de la Cour pénale internationale rejetaient toute demande d'enquête contre les auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en Afghanistan depuis 2003. Ils confirmaient qu'il existe, je cite, « des bases raisonnables de croire que les crimes ont été commis par des responsables gouvernementaux, des talibans et des soldats états-uniens, mais qu'une enquête serait contraire aux intérêts de la justice ». Alors, contraire aux intérêts de la justice, de quoi parle-t-on, Stéphanie Maupas ?
Alors, ce dont les juges parlaient dans le cas présent, c'était ils estimaient qu'il n'y aurait pas de coopération suffisante pour permettre d'aboutir à des mandats d'arrêt, à des procès ensuite, c'est-à-dire pouvoir faire une enquête, pouvoir ensuite arrêter les suspects et pouvoir ensuite conduire ces procès. Ils estimaient que cette coopération n'était pas présente, et notamment parce que les États-Unis et particulièrement l'administration Trump avaient fait savoir qu'il n'y aurait aucune coopération, mais plus que ça, l'administration Trump, plusieurs personnalités, donc John Bolton, Mike Pompeo, avaient intimidé, en quelque sorte, lancé des intimidations contre la Cour, contre toute personne à la Cour qui s'intéresserait au dossier afghan, et avaient même pris des sanctions, puisque la procureure Fatou Bensouda s'est vue supprimer son visa pour les États-Unis. Alors, elle peut toujours se rendre aux Nations Unies, à New York, mais elle ne peut plus circuler sur le territoire états-unien. Donc voilà, les sanctions ont été prises, et à partir de là, c'est dans ce contexte, en tout cas, que les juges ont pris leur décision, et dans leur décision, ils disent il n'y aura pas de procès possible. Or, on pourrait dire que dans de très nombreuses affaires, on pourrait aboutir à la même chose. Il y a une enquête actuellement en Géorgie sur les crimes commis lors de la guerre russo-géorgie en 2008, des enquêtes sur le Burundi, ces deux pays où il est effectivement très compliqué d'enquêter, où il n'y a pas de coopération. Donc on pourrait, les juges auraient pu au même titre dire qu'on ne pouvait pas enquêter et donc qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de poursuivre ces affaires-là. Or, c'est précisément sur l'affaire Afghanistan qu'il recule et ça donne l'impression qu'évidemment, proférer des intimidations y mettre des sanctions, eh bien, ça paye. Donc ça, c'est une preuve de la faiblesse de la Cour.
Alors, Joëlle Lubrecht, je me tourne vers vous. Les États-Unis ont toujours prôné une justice à la carte. Il n'empêche que cette affaire afghane vient fortement fragiliser la Cour pénale internationale. Est-ce qu'on peut parler d'un précédent dangereux ?
Effectivement, comme vous l'aviez rappelé en préambule, le premier procureur Moreno Ocampo s'était attaché à se rapprocher des intérêts américains pour essayer peut-être de le faire entrer ou en tout cas collaborer avec la Cour. Et il l'a fait à propos du Soudan et de l'Ouganda. Mais le second procureur, Fatou Bensouda, contrairement à son prédécesseur, qui avait fermé le dossier palestinien, qui avait fermé le dossier afghan, a réouvert ses dossiers très sensible et se retrouve, en plus avec une administration très hostile, idéologiquement, à la Cour, en confrontation directe. Et on peut voir que dans le contexte géopolitique global, qui ne se résume pas aux États-Unis, mais qu'aujourd'hui, dans le détail des affaires, les lignes de tension les plus fortes et les plus claires sont avec les États qui s'étaient, dès le départ, opposés au statut de Rome de 98, à savoir donc les États-Unis sur l'affaire afghane, la Russie sur, Stéphanie Maupas l'a rappelé, la Géorgie, mais il y a aussi l'Ukraine et on pourrait dire aussi la Syrie d'une certaine manière, Israël, bien sûr, avec le dossier palestinien, et on voit que ce sont là que les tensions sont aujourd'hui plus vives que jamais. Il y a d'autres tensions avec des organisations régionales extérieures. On aurait fait cette émission il y a 2 ans, c'est les tensions avec l'Union africaine dont nous aurions parlé, donc avec le Kenya, avec le Soudan, avec l'Afrique du Sud. Ces tensions se sont diminuées, mais la question de l'immunité des chefs d'État, qui était au cœur des désaccords entre l'Union africaine et la Cour, elle demeure et pourrait tout à fait être réveillée à l'occasion d'une prochaine affaire. Et puis, il y a les tensions avec, je dirais presque internes, avec des États partis ou avec des organisations alliées qui, elles, sont d'une certaine manière de basse intensité. L'Afrique du Sud ne s'est pas retirée, mais peut-être que devant le Parlement sud-africain, la question va être reposée. On voit que aussi avec la Grande-Bretagne, par rapport au dossier irakien, où des soldats anglais sont mis en cause, aussi la Hongrie, qui a accepté de soutenir Israël en critiquant les avancées du procureur sur le dossier palestinien, mais aussi peut-être demain avec le Brésil, ce serait pas très surprenant, peut-être avec le Mexique aussi. On voit que ces tensions de basse intensité avec des États partis ou avec des organisations alliées menacent de s'accroître et elles peuvent peut-être faire d'autant plus mal qu'elles se placent dans le sillage de retrait d'États partis qui, lorsqu'ils ont été mis en cause, se sont retirés, comme les Philippines ou le Burundi. C'est dans cet ensemble, d'une certaine manière, je parlais de jeu d'échecs, mais peut-être qu'un jeu d'échecs, c'est un jeu trop civilisé, trop apaisé pour décrire la situation dans laquelle on est et qui se joue sur des lignes de tension dures.
Et la liste des pays absents du statut de Rome, vous les évoquiez à l'instant, Joëlle Lubrecht, en citant les États-Unis, la Russie, Israël, la Syrie, il y a aussi la Chine, alors la question des Ouïghours, on n'a pas le temps de développer, il y a aussi l'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, le Vietnam, le Myanmar, l'affaire des Rohingyas, et puis aussi la Thaïlande et l'Algérie. Stéphanie Maupas, très rapidement, pour terminer cette première partie d'émission, un commentaire peut-être sur ce que vient de dire Joëlle Lubrecht ?
Oui, effectivement, avec l'arrivée de Fatou Bensouda et un changement politique qui était au départ vu comme essayer de tenter une réconciliation avec plusieurs États africains, dont l'Union africaine, parce que jusqu'ici, eh bien, la Cour n'avait enquêté que sur des affaires africaines. Cette décision de Fatou Bensouda de prouver en quelque sorte que la Cour était capable de revenir à ce qui était finalement la base de son mandat, les dossiers Afghanistan, les dossiers Palestine, Géorgie, Ukraine sont des dossiers sur lesquels la Cour a évidemment d'abord toute légitimité à enquêter, et ensuite c'était sur ces dossiers-là qu'on l'attendait au départ. Eh bien, elle a essayé en quelque sorte de rééquilibrer la balance, de redonner une crédibilité à la Cour. Et effectivement, c'est très compliqué parce que les États s'y opposent, mais je crois qu'on pouvait s'y attendre dès le départ, avant même que la Cour n'ouvre ses portes. Dès les premières discussions sur le traité de Rome, on pouvait s'attendre à ce que les États agissent de la sorte. Ce qui est important, en fait, c'est que la Cour sache prévoir les stratégies d'opposition qu'elle va avoir face à elle.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission, Stéphanie. On vous retrouve après le journal, ainsi que Joëlle Lubrecht. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la justice pénale internationale en partenariat avec la revue internationale et stratégique. Nous retrouvons nos invités au téléphone depuis La Haye aux Pays-Bas. Stéphanie Maupa, journaliste correspondante pour RFI et le quotidien Le Monde, auteur de Le Joker des puissants, le grand roman de la Cour pénale internationale aux éditions Don Quichotte, et Joëlle Ubrecht, responsable du programme Justice pénale internationale et justice transitionnelle à l'Institut des hautes études sur la justice et membre du conseil de la rédaction de la revue Esprit. Stéphanie Maupa, la Cour pénale internationale a depuis le début fait l'objet de critiques. Sans doute est-il tout de même opportun de s'arrêter sur le contexte international, un contexte qui est moins propice à la promotion des agences de coopération internationale et au droit international. Unilatéralisme et bilatéralisme opèrent un retour en force. Diriez-vous que les problématiques criminelles internationales n'occupent plus forcément le haut de l'agenda politique global ? Et si l'on voulait aller plus loin, que l'idée même de justice pénale internationale est devenue illégitime?
Alors, l'heure est plutôt à la guerre qu'à la justice, et la justice arrive plutôt après, donc on pourrait résumer ça à la situation d'aujourd'hui. C'est vrai qu'au moment de la création en 98, on était après la chute du mur, il y avait une autre atmosphère dans les relations internationales. Il y a eu le 11 septembre, avec une politique globale, on pourrait dire, sur l'antiterrorisme, sur toutes ces questions-là sécuritaires, et un début de repli. Et puis, l'administration Trump, évidemment, ne favorise pas les relations internationales. Et dans ce contexte-là, les organisations internationales comme la Cour, évidemment, payent le prix de cette situation-là. Maintenant, est-ce que elle est illégitime ? Je ne pense pas, ou si elle l'est à ce moment-là, dès le départ. Il y a deux façons de voir la Cour. À la fois comme une organisation supranationale qui mettrait fin aux souverainetés, mais il y a aussi une autre façon. Moi, il me semble que plusieurs aspects de son statut préservent les souverainetés. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la fin de l'immunité des chefs d'État et des hauts responsables pour ce qui est des crimes de masse, génocide et crimes contre l'humanité. Donc, en ratifiant le traité, les États ont lâché des pans de souveraineté, mais en même temps, adhérer à la Cour, cela implique à inscrire la Cour pénale internationale dans l'ordre juridique interne. Il y a certains États qui ont amendé leur constitution avec la création de la Cour. Donc, plusieurs États qui considèrent la Cour comme faisant partie de leur ordre juridique interne. Quand l'Afghanistan décide de ratifier le traité en 2002, alors je ne sais pas à l'époque qu'est-ce qui a motivé la décision, mais cette décision, elle consiste à protéger son territoire et ses propres citoyens. Ce n'est pas une décision prise, par exemple, contre les États-Unis. Lorsque les États-Unis mettent le pied sur le sol afghan, l'Afghanistan a ratifié, et donc l'Afghanistan protège son pays des crimes de masse qui peuvent être commis, que ce soit par ses propres ressortissants, mais aussi par les ressortissants étrangers. Donc, dans ce sens-là, je crois que la Cour n'est pas illégitime. Et puis, il y a cet aspect complémentarité où la Cour, en fait, incite les États à étendre leur souveraineté, c'est-à-dire à appliquer pleinement les obligations qu'ils ont prises quand ils ont ratifié, par exemple, les conventions de Genève, où ils sont engagés à poursuivre, à juger sur leur sol les responsables de crimes de masse. Et l'existence même de la Cour, en fait, incite les États à prendre des dispositions pour pouvoir juger. Voilà, donc c'est un processus qui est assez long, qui n'est pas favorable aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça remette en cause la légitimité.
Joëlle Ubrecht.
Effectivement, il est très frappant de comparer l'état d'esprit qui était celui de la fin des années 90, donc 98, au moment où on a mis en place le statut de Rome, avec la période actuelle, à la fois quant au fonctionnement du multilatéralisme, mais aussi quant à la revendication presque ouverte de la violation du droit international humanitaire, que ce soit par Vladimir Poutine lorsqu'il bombarde des hôpitaux en Russie, que ce soit par Donald Trump lorsqu'il menace l'Iran de bombarder des sites culturels. On est vraiment dans une période où les ambitions punitives et préventives et de respect d'un droit international humanitaire se sont effondrées du côté de l'ONU, du côté de l'OTAN, du côté des grandes puissances. Et autant il est vrai que dès le départ, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés de coopération avec les États, en particulier lorsque les États directement concernés par les crimes commis sont hostiles à ce qu'il y ait justice, ou que ce soit compliqué, y compris lorsque ces États souhaitent qu'il y ait justice, mais parce que ce sont des États faillis ou des États faibles, ils ne sont pas en mesure d'apporter toute la coopération qui serait nécessaire aux procureurs pour qu'ils puissent monter des dossiers solides. Bon, ça, on pouvait l'attendre. Mais le fait que des États partis qui ne sont pas directement concernés par ces dossiers, comme les 6 États qui ont accueilli Béchir sur leur sol et qui ne l'ont pas arrêté, qui ne l'ont pas extradé, que au niveau aussi de l'accueil des acquittés, au niveau de l'emprisonnement des condamnés, on voit que les défauts de coopération au niveau des États, y compris des États partis, sont quand même assez flagrants. Et donc, c'est ce contexte international-là. Et malheureusement, l'Assemblée des États partis est tout à fait consciente de l'état de crise et de doute dans lequel la Cour est aujourd'hui. Elle a mis pour cela en place un groupe de 9 experts qui vont faire un audit en 2020 et faire des propositions à l'automne de l'année prochaine. Ces experts, ils vont travailler sur les dysfonctionnements internes de la Cour. Il y a beaucoup de dysfonctionnements internes sur lesquels il y a des choses à faire, mais vous voyez, c'est ce contexte extérieur, cette responsabilité des États aussi, il y a une responsabilité de la Cour qui ne peut pas s'effacer devant celle des États, mais l'extérieur et l'interne effectivement se répondent, comme l'international et les nationales s'imbriquent au niveau du statut de Rome. Et effectivement, il n'y a pas du tout d'opposition sur des questions de souveraineté, puisque la Cour est une Cour de dernier ressort, c'est-à-dire la CPI n'entre en action par rapport à ces États partis que lorsqu'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas poursuivre des crimes. La question, évidemment, s'élargit par rapport à des États qui n'ont pas ratifié le statut et dont on voit aujourd'hui, comme la Birmanie, on a évoqué avant les États-Unis ou la Russie, qui ne sont pas à proprement parler dans le système de Rome, mais sont malgré tout rattrapés par les velléités du procureur.
Alors, plusieurs choses par rapport à tout ce qui s'est dit, et pour avancer un tout petit peu dans le débat, on a beaucoup parlé de la Cour pénale internationale, puisqu'il est question de justice pénale internationale. Il y a aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont l'inertie est tout de même assez patente. Alors, je sais que plusieurs ONG, dont Amnesty International, travaillent à ce que le droit de veto ne puisse pas être utilisé à l'ONU lorsque les affaires concernent des crimes. Stéphanie Maupin, un commentaire ?
Cette question-là, en fait, de la non-coopération des États ou des États qui n'ont pas ratifié le traité, je crois que la Cour peut continuer à exercer sans être confrontée à ces questions-là. C'est-à-dire que la Cour doit se réformer pour ne pas donner des armes à ses détracteurs. C'est ça le point important, c'est-à-dire qu'elle puisse rendre justice en essayant en quelque sorte d'échapper au contexte, rendre justice, rester guidée par des décisions de justice et non par des décisions politiques qui, de toute façon, la mettent en position de faiblesse en fait par rapport aux différents États.
Alors, Joël Hubrecht, est-ce qu'on pourrait voir finalement le débat se déplacer si la Cour pénale internationale a tant de mal à rendre justice, le Conseil de sécurité de l'ONU avec des vétos particulièrement, on va le dire, de la Russie et de la Chine. D'autres formes de justice existent. Est-ce qu'on peut voir l'accent peut-être mis davantage sur les questions de compétences universelles ou de juridiction spécialisée des cours régionales ?
Alors, effectivement, d'ailleurs, le Conseil de sécurité, dont le lien avec la Cour pénale internationale n'est pas du tout injustifié, il y a de bonnes raisons pour que le Conseil de sécurité ait un certain nombre de prérogatives possible vis-à-vis de la Cour, mais de fait, comme il l'a montré sur le Soudan, même lorsqu'il saisit la Cour, après, il ne soutient pas son travail. Mais pour venir à votre question, le cas de la Syrie montre ça, c'est-à-dire ce blocage par un droit de veto que, effectivement, d'une certaine manière, la France a essayé de chercher à descendre en faisant une proposition de suspension de ce droit de veto dans le cas de crimes de masse, mais c'est une proposition qui a été avancée il y a maintenant plusieurs années. Et dans le contexte actuel, il y a évidemment peu probable qu'elle soit adoptée si elle ne l'a été fait auparavant. Mais ces blocages du Conseil de sécurité, alors qu'une majorité d'États, y compris la configuration du Conseil de sécurité change en dehors des États permanents, même lorsque une majorité était favorable à une saisie de la Cour pour juger des crimes commis en Syrie, le droit de veto l'a bloqué. Et de ce fait-là, l'Assemblée générale a pris le relais et fin 2016 a voté la création d'un mécanisme de collecte de preuves, le M3I, sur la Syrie. Et on voit qu'aujourd'hui, ce type de mécanisme tend à se multiplier. Il y en a aussi un qui a été mis en place pour la Birmanie. Il y en a un qui a été mis en place pour l'Irak. Des commissions de recueil de preuves existaient déjà. Mais ces mécanismes-là sont des mécanismes qui portent un regard, une analyse plus juridique, qui préparent des dossiers, qui aident des juridictions. Et effectivement, que ce soit pour préparer des dossiers éventuellement pour une future saisie de la Cour pénale internationale. Pour un futur tribunal pénal international ad hoc, dans le cas de la Syrie, aucune de ces deux hypothèses n'est vraisemblable. Mais des collaborations avec des juridictions nationales et poursuivant des auteurs de crimes internationaux, soit sur la base de la compétence universelle, soit sur la base de la double nationalité de victimes. Aujourd'hui, ces juges nationaux, d'une certaine manière, prennent le relais sur la Syrie. Et en France, on a eu des accusations contre des hauts responsables syriens sur des dossiers ouverts en France. Et on voit que on a un retour en grâce de la compétence universelle qui avait été très décriée après l'expérience belge, notamment très
compétence
très
universelle dont on peut peut-être rappeler très rapidement les grands principes.
La compétence universelle, c'est la responsabilité ou le devoir des juges nationaux de poursuivre des auteurs de crimes internationaux les plus graves, et uniquement ce type de crime-là. Après, avec, selon les législations, un certain nombre de contraintes. Mmh. Il faut que le suspect ait une résidence habituelle ou non dans le pays où est ouvert l'affaire. Bon, un certain nombre d'éléments qui vont ensuite conditionner la possibilité d'aller vers des poursuites. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce retour en grâce de la compétence universelle via des pôles spécialisés, en France on s'est doté d'un pôle spécialisé, ne se fait pas en opposition ou en alternative avec la Cour pénale internationale. Ce sont des pôles qui fonctionnent en collaboration avec la Cour et puis surtout qui fonctionnent sur une internalisation du statut de Rome. Et c'est bien sur cette base-là, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui les juges nationaux, dans les pays qui souhaitent effectivement aller sur ce terrain-là, peuvent travailler.
Alors, donc tout cela pour dire que ça ne vient pas de déplacer le débat, ça ne se met pas, mais voilà, c'est un élément
tout
supplémentaire. Il y a aussi, alors bon, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais je l'évoque là, la question de la responsabilité pénale des personnes morales en temps de guerre. On l'a vu avec, alors les personnes morales étant des sociétés, on l'a vu notamment à propos de la Syrie. Stéphanie Maupas, l'élection du prochain procureur de la CPI aura lieu au mois de décembre, donc à la fin de cette année. Quelles leçons peut-on tirer des profil des deux procureurs que la CPI a connus jusqu'à présent? Qu'est-ce qui est indispensable par rapport à cette élection? Et finalement, est-ce que l'avenir même de l'institution dépend de son futur procureur?
Alors en tout cas, l'avenir de l'institution sera différent selon le futur procureur. Hein. Dans les cas précédents, lors de l'élection de Luis Moreno Ocampo, ce que rappelait Joël Hubrecht un peu plus tôt, c'est que il a été élu en quelque sorte pour essayer d'amadouer ou d'attirer les États-Unis dans la Cour, pour que les États-Unis adhèrent à la Cour. Et finalement, sa politique a échoué, puisqu'on voit aujourd'hui les résultats ne sont pas très brillants pour la Cour et sa crédibilité est quand même sérieusement menacée. Ensuite, Fatou Bensouda a été élu à une période où les États africains s'opposaient fortement à la Cour. Et donc, on a pensé qu'il serait bien d'élire une procureure africaine à la tête de cette Cour. Et donc, on a encore une fois en fait fait un choix qui était guidé par des objectifs politiques, qu'ils soient légitimes ou non. Enfin, ça ne remet pas en cause la volonté des États à ce moment-là, mais le choix devrait être fait, à mon sens, sur les compétences du futur procureur et la politique pénale qu'il souhaitera mettre en place. Et je crois que c'est le plus important, c'est de revoir cette politique pénale qui, de toute façon, reste assez peu claire ou peu compréhensible, et de revoir une politique pénale de sorte à éviter à la fois les écueils politiques, notamment dans les périodes de changement de régime, puisqu'on voit que ça a conduit à de nombreux échecs, c'est-à-dire essayer d'éviter que la Cour puisse agir indépendamment des contextes politiques. Et ça ne pourra être fait que quand il y aura une véritable politique pénale mise en place. Donc voilà, il faudra avoir un procureur qui soit guidé par ce souci de justice. Et les tribunaux ad hoc ont eu de très bons procureurs. On se rappelle de Louis Arbaud, on se rappelle de Carla Del Ponte. Donc on voit pas, il n'y a pas de raison pour que la Cour pénale internationale ne dispose pas d'un procureur qui ait une conscience en fait très très fine de sa mission. Quoi. Donc on va voir ce que vont faire les États. Il y a quand même déjà pas mal de tractations pour savoir qui sera le futur candidat. C'est pas forcément une procédure qui est très transparente. Donc on va voir. Beaucoup d'ONG estiment que les États ont nommé au poste à responsabilité de la Cour, à la fois du côté des juges ou du bureau du procureur, des personnalités qui n'avaient pas forcément toutes les compétences et que certaines ONG estiment que c'est une volonté de la part des États qui souhaitent pouvoir avoir une certaine forme de contrôle sur la Cour. Voilà, je ne sais pas si le calcul est juste, mais en tout cas, il y a des précédents, il y a des procureurs qui ont su mettre en place des politiques pénales solides dans des contextes qui étaient difficiles, même si évidemment beaucoup moins complexes que ceux que connaît la CPI. Et donc voilà, c'est pas impossible, ça peut permettre à la Cour effectivement de se réformer, mais elle restera quand même dans le contexte d'aujourd'hui, dont on a parlé un petit peu plus tôt.
Alors, Joëlle Ubrecht, Stéphanie Maupas évoquait la nécessité d'avoir un procureur qui ait le souci de la justice. Ce qu'on voit tout de même dans le contexte actuel, on l'évoquait, retour de l'unilatéralisme, du bilatéralisme, il y a un manque de volonté politique patent de la part des gouvernements. Quelle solution, d'après vous, pour améliorer l'action et l'efficacité de la CPI, est-ce qu'il y aurait des mesures d'urgence? Si oui, lesquelles et quelles réformes sont prioritaires? Joëlle Ubrecht.
Alors, il y a deux types de recommandations qui ont déjà été avancées. Le groupe d'experts qui a été mis en place en fera d'autres au moment de l'Assemblée des États parties où on élira également le prochain procureur. On peut avoir des recommandations qui sont plutôt de nature pragmatique et qui peuvent être mises en place sans réformer le statut de Rome, et donc là on est plutôt dans le changement de pratique ou d'organisation, dans la conduite des procès, dans les délais qui sont appliqués, dans la formation en continu des juges, dans un corps d'inspection commune des juridictions. Bon, un ensemble de propositions assez pratiques qui ont d'ailleurs été déjà avancées par des juges et des présidents de juridictions en 2017, ils se sont réunis à Paris en octobre 2017, ils ont fait cet ensemble de propositions qui peuvent être prises sans avoir à réformer le statut de Rome. Il y a d'autres recommandations qui peuvent être avancées, qui elles sont beaucoup plus radicales et donc sont sans doute plus à long terme, comme celle autour du juriste, ancien chef de la défense du tribunal spécial pour le Liban, François Roux, qui imagine, travaille à élaborer un nouveau type de statut différent de celui qui est en œuvre aujourd'hui, qui est très imprégné du droit anglo-saxon, qui là serait, avec une chambre de l'instruction, beaucoup plus de nature du droit continental, bon, qui fonctionnerait différemment. Mais encore une fois, comme ça a été rappelé, il faut replacer surtout la Cour dans ce système beaucoup plus large, ce système de Rome, et voir les enjeux de la justice internationale dans cette vision plus globale. Parce que, comme vous le rappeliez aussi avant pour les entreprises, et la responsabilité des multinationales dans le cadre notamment des crimes environnementaux. Bon, c'est là un défi d'une certaine manière pour laquelle la Cour qui a été créée en 1998 est finalement mal outillée. Fatou Bensouda a envoyé des signaux positifs en disant qu'elle essaierait d'ouvrir des dossiers sur des crimes environnementaux. Elle n'a pas réussi à le faire. On voit que sur la lutte contre le terrorisme, là aussi, la Cour essaye de faire ce qu'elle peut en allant sur le Sahel, en allant sur le Mali, en Nigeria, en essayant de voir Boko Haram, les actions de Boko Haram, mais elle est quand même très, très marginalisée. Et donc, par rapport à l'évolution des demandes et des attentes de justice et sur des crimes de nature qu'on peut considérer internationale et grave, elle n'aura pas forcément tous les outils sans une réforme qui aujourd'hui, une réforme du statut qui aujourd'hui n'est pas possible. Et donc, il faut vraiment, je crois, replacer la Cour non pas au sommet d'eux, c'est pas la Cour de... c'est pas une Cour qui chapeaute tous les processus de justice internationale, mais comme une sorte d'aiguillon. Et le prochain procureur devra s'attacher à rendre ce rôle d'aiguillon plus fort. Mais encore une fois, les enquêtes, la stratégie du bureau du procureur, c'est une question centrale qui doit être améliorée. Mais il y a la question de la coopération des États, du Conseil de sécurité, il y a la question de des délais de procédure, de l'illisibilité des procès. Tout ne repose pas sur les épaules du procureur.
Merci Joëlle Ubrecht. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Justice pénale internationale et justice transitionnelle à l'Institut des hautes études sur la justice, également membre du conseil de la rédaction de la revue Esprit. Merci aussi à Stéphanie Maupas qui était avec nous au téléphone depuis La Haye. Stéphanie Maupas qui est journaliste, correspondante pour RFI et le quotidien Le Monde et auteur de Le Joker des puissants, le grand roman de la Cour pénale internationale aux éditions Don Quichotte. Géopolitique qui était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.
partenariat avec la FECOFA.